Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Dire à ce monsieur qu'il peut venir faire sa demande. Merci, mère. La mère soupire et lui dit : Tu me remercieras plus tard, si tout va bien. Apolline l'embrasse et lui dit : Je vais le dire à mes frères. Elle va tout d'abord à la chambre de Jules. Il est assis à son bureau. Elle va s'asseoir à ses côtés. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu écris ?» Il lui répond « J'écris sur l'instant et qu'est-ce que le bien et le mal pour le cerveau ?» Comment cette idée lui est venue ? C'est compliqué. Et tu as trouvé une solution ? Je te la ferai lire lorsque j'aurai fini. Je suis venu te dire, c'est que j'ai décidé de me marier. Une personne m'a demandé un mariage et je vais dire oui. Jules est surpris. Toi, te marier? J'aurais pas jamais pensé à ça. Et avec qui? Le marquis de Saint-Véran. Jules la regarde bien et lui dit, mais il pourrait être ton grand-père. Et alors, il est en âge de se marier? Tu ne vas pas me dire que tu l'aimes? Elle hausse ses épaules. L'amour, l'amour. Il n'y a que pas que ça dans la vie. Ma foi. Si ça te fait plaisir, c'est pas que ça me fait plaisir, mais c'est pratique. Je souhaite beaucoup de bonheur. Elle l'embrasse et lui dit « Merci, je vais l'annoncer à Chalandré. » Elle y va. Elle est allongée sur son lit. « Ah, c'est toi ?» Elle s'avance vers lui, se penche et lui donne un baiser. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis sur la morale et l'instinct de conservation. Elle s'assoit sur le rebord du lit et lui dit « C'est étrange, toi et Jules pensez à la même chose. Je dois être dans l'air du temps. » Il regarde surpris et inquiet. Puis lui dit « Tu es venu me voir pour quelque chose? Je suis venu, c'est annoncer mes fiançailles. » Il lui dit « Rien que ça, oui mon chéri, et avec monsieur le marquis de Saint-Véran. Pourquoi? Tu veux devenir marquise? Pourquoi pas? Félicitations, mais bon courage, parce que ça ne va pas être drôle tous les jours. Merci. » Il lui demande, tu me laisses tomber? Mais non, je reviendrai souvent vous voir, et puis, ne sois pas jaloux de ce vieux. Comment vas-tu faire pour tes habitudes? Il ne se rendra compte de rien. J'ai promis, il m'a promis de me laisser libre. Ne t'en fais pas. C'est moi qui vais le mener à la baguette, le vieux. Je crois que je ferai une très jolie veuve. Elle l'embrasse et lui dit « Je me sauve. Il faut que je me change pour le repas. » Le père a été informé. Il est d'accord pour recevoir le marquis et lui écrit une lettre pour lui donner rendez-vous. Le marquis est heureux. Il va au rendez-vous qui se passe dans le bureau du père. Le père a dit qu'il a appris et qu'il avait fait sa demande et que la fille acceptait. Après, les deux hommes ont parlé argent, contrat de mariage, date. Le mariage se fera dans 3 mois. Le contrat spécule que tant que le marquis sera vivant, la fortune des deux époux sera sous la tutelle du mari, ce qui fait que la mariée sera dépendante financièrement de son mari, ce qui fait que chaque fois qu'elle aura besoin d'argent, elle devra demander. Les préparatifs de fiançailles se font rapidement. La mère organise un bal pour annoncer la nouvelle à tous. Sylvain apprend la nouvelle et cela le déprime. Il apprend la nouvelle par Jules qui est venu le voir. Ils sont tous deux au salon, assis près du feu. Jules lui demande, « Tu l'aimes encore ?»«
Oui. » »«
Je ne comprends pas sa décision. Se marier avec ce vieux ?» Remarque qu'elle se marie avec lui ou un autre, c'est la même chose pour moi, je la perds. Je me demande ce que je vais devenir sans elle. Je suis seul. Je lui prends la main et la serre. Je suis là? Merci. Et cette fois, c'est lui. C'est lui qui serre la main de Sylvain. Cela fait du bien. Et il se dit, malgré lui, que lorsque Sylvain a du chagrin, il est plus tendre pour lui. Sylvain lui dit, ne me laisse pas tomber, mais non, je resterai toujours avec toi, je serai toujours ton ami. Jules va voir tous les jours Sylvain. Ils vont se promener ensemble, au café, écouter la musique ou rester chez lui. Jules essaie de le distraire et de se rendre indispensable par de menus services. Sylvain a reçu une invitation au bal pour les fiançailles d'Apolline. Lorsqu'il voit Jules, il lui dit qu'il ne veut pas y aller. Tu lui diras que je suis fatigué. Bien, comme tu veux. Les fiancés sont présentés à toute la bourgeoisie lyonnaise. Les gens félicitent les fiancés. Le bal a duré jusqu'à 7 heures du matin. Apolline continue à voir le médecin, qui lui aussi a appris la nouvelle. Il s'en moque du moment qu'elle vient le voir. Elle est obligée d'attendre. Sylvain devient de plus en plus mélancolique. Il s'affaiblit. Jules fait tout pour le distraire. Les préparatifs du mariage vont bon train. Acheter le trousseau, aller chez le tailleur pour la robe de mariée et les robes pour le voyage de noces. Car c'est sûr, on fera un voyage de noces. L'hôtel particulier qu'a acheté le marquis commence à se remplir de vêtements, vaisselle et petits meubles. Mais tout cela n'est qu'en dépôt, car ça partira en Bourgogne pour le manoir. Apolline demande à son fiancé si elle ne va pas laisser des choses à Lyon. Il lui répond « Nous verrons bien, nous verrons bien, ma chérie. » De temps en temps, elle l'embrasse sur le front. Cela lui donne le frisson, un frisson de dégoût, bien entendu. Les jours passent et le mariage est pour dans 3 jours. Elle va chez le médecin pour la dernière fois. Ils sont à son bureau. Il lui demande « Tu viens chercher ta pipe, ma chérie ?»« Non, je suis venu vous dire adieu. » « Comment tu vas faire ?»«
Je vais être riche, je pourrai acheter moi-même. »«
Et moi dans tout cela ?»
Elle sourit et lui dit « Vous, c'est fini. »«
Alors, tu es venu me dire adieu ?»«
Oui, et vous dire mon dégoût de ce que vous faisiez faire, vous forciez à faire. »«
Arrête. Moi, je sais ce que c'est que ça te faisait plaisir, autant que tes pipes. » Tu n'es qu'une petite suceuse. Tu me méprises pour le moment, mais lorsque tu t'apercevras que ton mari ne te fait pas autant d'effet, tu me regretteras.
Elle le regarde méprisante et lui dit « Mon pauvre ami, comment pouvez-vous croire qu'un homme comme vous peut faire de l'effet à une femme ? Quand on vous trouve votre bout de chair à forme dégoûtante, à l'odeur sale, il vous donne plus envie de vomir qu'autre chose. Comment vous, un médecin, peut-il penser à peler, à porter du plaisir avec ça? Vous ne voyez donc pas que c'est sale la façon dont vous faisiez faire ça? Il la regarde en faisant la grimace et lui dit
« Tu n'as pas à faire la dégoûter, ma petite. Surtout que tu te maries avec ce vieux débris. Qu'est-ce que tu crois qu'il va te faire? Il ne peut pas faire autrement que ce que nous faisions. Tu seras peut-être riche, mais tu es tombé dans un piège.
Peut-être, et cela me permet de vous dire adieu. » Elle se lève. Ne me racontez pas, je connais le chemin.
Et si je disais certaines choses à tes parents?
Je dirais que vous avez abusé de moi lorsque j'étais enfant. Ils me croiront, parce que vous m'avez soigné et que chaque fois que je vous voyais, je pleurais et ne voulais pas vous voir. Ma mère ne comprenait pas. Elle pourra comprendre maintenant. Et elle lui tourne les talons et sort du bureau. Jules a pitié de Sylvain qui dépérit. Il le dit à sa sœur au salon. Elle lui répond « Et alors, je suis pas une sœur Saint-Vincent-de-Paul. Tu es vraiment sûre de préférer le marquis ?» Elle hausse ses épaules et lui dit « Tu te demandes ça, quelques jours du mariage ? Oui, je prends le marquis. Oui. » Jules est triste. Il passe ses journées avec Sylvain, qui est alité. Il est assis sur une chaise. près du lit. Tu vois, elle n'est pas aussi bien que ça. Des filles, tu peux en trouver autant que tu veux. Merci, mais c'est elle que j'aime, je lui dis. Tu comprendras bien vite qu'une femme ou une autre. Sylvain lui prend la main, la lui serre et lui dit « Ne me dis pas ça, tu me fais encore plus mal. » La cérémonie du mariage a lieu. Apolline est sûre d'elle-même. Le marié, tout heureux. Les beaux mandins, encore sous le choc de ce mariage précipité. Quant à la famille du mari, personne n'est venu. Après les cérémonies religieuses, le repas et le bal, puis, dans la nuit, sans rien dire, les mariés sont partis avec les derniers bagages en berline. Dans la berline, le vieux marquis tient la main d'Apolline et roule pendant des heures et des heures. Apolline s'est assoupie. Elle se réveille, il fait grand jour. Elle a un peu froid, des courbatures. Elle voit son mari qui la contemple. Elle lui demande... Où allons-nous ? Il lui dit, nous allons chez nous ? Nous allons chez nous ? Mais nous devions aller en voyage de noces.
En voyage de noces ? Voyage de noces ? Voilà bien des femmes. Cela coûte cher, ma chérie. Et nous serons tout aussi bien chez nous.
Elle commence à regretter son mariage. Elle se demande si elle n'a pas fait une bêtise. Nous sommes bien riches.
Oui, bien sûr. Mais nous devons faire attention.
Elle se dit plus rien. Elle se sent prisonnière. Après une heure de route, il lui demande «
Vous ne parlez pas. Vous êtes fatigué ?»«
Oui, un peu. J'ai un peu froid. » Nous allons bientôt arriver, dans une heure.
Vous pourrez vous reposer, ma chérie.
Il commence à pleuvoir. Très vite, la route devient boueuse. Le paysage est gris et sombre. Elle se dit que la campagne est vraiment lugubre. Enfin, ils arrivent. Le manoir est un véritable manoir de contes de fées lugubres, entouré de forêts. Au fond d'un parc, aux arbres centenaires, la berline suit deux haies d'arbres épais et sombres. La bâtisse est du XIIIe siècle, lugubre elle aussi. Il y a deux étages avec un perron. La berline s'est arrêtée. Devant l'entrée, le marquis sort pour sonner. Une grande porte à deux battants s'ouvre. Un vieux domestique apparaît.
Eh bien, imbécile, nous sommes arrivés. Allez chercher les bagages.
Le domestique sourd court les chercher. Il pleut encore abondamment. Le marquis crie.
« Alors, madame, vous venez ?»
Apolline sort de la berline et va rejoindre son mari. Les deux battants de la porte se ferment derrière elle. Cela la fait sursauter. Un grand hall d'entrée, sombre, éclairé par quelques lampes sur des meubles. La domesticité en rang face à eux. Le marquis dit,
voici la domesticité, la gouvernante, Madame Pipe.
Une grande femme sèche, l'air revêche, les cheveux chartins en chignon, robe noire simple. Elle a les deux mains sur son ventre et les tapote. Elle lui dit,
c'est ça ta femme? Tu es sûr de ne t'être pas trompé? Ça m'a l'air d'être une poupée. Pas très sérieux tout ça.
Marquis lui dit,
oh, c'est ça. Je compte sur toi pour la former.
Puis il se penche sur sa femme et lui dit,
Madame Pipe veille sur mes intérêts. Elle aimait beaucoup ma mère. Tout ici lui doivent le respect. Et vous verrez, elle est de très bons conseils. Vous avez à droite de Madame Pipe la cuisinière, Odette.
La Pauline voit une petite femme rondouillette.
Et la femme de chambre, Marie.
La Pauline voit une petite jeune fille toute maigre.
Ah oui, le valet que vous avez vu aller chercher vos bagages, c'est Martin, homme à tout faire.
Puis il dit à Madame Pipe,
nous avons faim, Madame Pipe. J'ai pensé, une bonne soupe de légumes. Bien, Madame Pipe, allons à la salle à manger.
Apolline suit son mari qui va ouvrir une porte au fond du couloir. Une grande pièce sombre, lugubre, avec au milieu une grande table entourée de chaises. Des fenêtres, on entend la pluie tomber. Il fait asseoir sa femme et lui s'assoit en face d'elle. Madame Pipe s'assoit du même côté que le maître. Elle a son couvert. La Pauline est surprise. La petite bonne lui sert la soupe. Une soupe de paysans. Il y a des restes de tout, même de pain. C'est la première fois qu'elle mange de la soupe à midi. Après avoir mangé la soupe, un morceau de fromage, le mari lui dit,
Madame Pipe va te présenter ta chambre.
Madame Pipe lui dit, tu crois que c'est nécessaire? Je vais donner la bleue, c'est plus pratique à nettoyer.
Oui, mais tu nous montreras la chambre. Pendant ce temps, moi, je vais voir mes métairies. Cela l'empêchera de farfouiller pendant mon absence. T'en fais pas, j'ai les clés.
Il se lève et sort de la pièce. Madame Pipe se lève et dit à Pauline,
allez, je vais vous montrer votre chambre.
Pauline se lève et la suit comme le prisonnier suit son geôlier. Ils ont sorti de la pièce. Montez aux étages. Au deuxième, suivez un couloir sombre, avec un côté des fenêtres qui donnent sur le parc. Et de l'autre côté, contre, il y a des portes, et entre les portes, des portraits. Madame Pic prend son trousseau de clés, qui est attaché à sa ceinture. Et va ouvrir une porte.
Ah, c'est ici.
La pièce est grande, les murs peints en bleu, un grand lit, une armoire, une table de chevet, un secrétaire, une table de toilette. Contre un mur, une grande cheminée, d'où sort de l'air frais et un bruit bizarre qui doit être de l'eau. C'est sinistre, parce que le bleu est sombre et qu'il n'a aucune personnalité.
Cela vous va?
Oui, merci.
Bien, debout à 6h, petit déjeuner à 7h. Une fois que nous avons fait votre chambre, vous pourrez y retourner.
Monsieur Perfet préfère que vous soyez dans votre chambre lorsqu'il est absent.
Ne vous promenez pas dans le parc, à cause des chiens. Ils sont féroces.
Bien, en bruit. lors des repas. Le déjeuner à 11h30, à cause que notre maître va à 7h. Le dîner à 18h30. On se couche tôt ici, ce n'est pas la ville. Et puis cela fait des économies de chandelle. Monsieur n'aime pas que l'on éclaire dans la chambre une fois au lit. Voilà, madame, vous savez tout.
Pauline est furieuse et lui dit.
Et moi, l'on ne me demande pas mon avis sur la façon de vivre. Monsieur par-ci, monsieur par-là, vous oubliez, c'est que je suis sa femme. Désormais, c'est moi qui veux mener sa maison.
Madame Pipe la regarde dédaigneusement et lui dit.
Ça m'étonnerait, madame. Monsieur tient à ses habitudes, qu'il tient de sa défunte mère.
Eh bien, c'est bien ce que nous verrons. En tout cas, je ne veux pas vivre comme une recluse.
Madame, elle n'a rien d'autre à me dire?
Non, ma fille, vous pouvez disposer.
Et madame Pipe la quitte.
Apolline est furieuse. Tape du pied contre le secrétaire. Quelle idée j'ai eue de me mettre dans ce guépier. Puis, elle va à la fenêtre.
Regarde à l'extérieur. C'est sinistre. Elle referme la fenêtre. Elle va s'asseoir sur une chaise.
Ce vieux cochon, si j'imagine m'en se fermer.
Les heures passent, la fatigue l'a endormi.
Des coups à la porte la font se réveiller en sursaut. Il fait presque nuit dans la pièce.
Madame, il est l'heure de dîner,
dit madame Pipe. Apolline lui dit, j'arrive.
Elle se lève, range sa robe et ses cheveux et sort de la chambre.
L'on n'y voit presque rien et longe le couloir presque à tâtons. Descend les escaliers et en bas, on va retrouver la salle à manger.
Là, elle retrouve son mari et madame Pipe qui sont déjà attablés. Elle va s'asseoir à la même place qu'elle dit.
Son mari lui dit,
vous êtes en retard.
Je me suis assoupi. Monsieur, j'ai des choses à vous dire au sujet de la vie que vous voulez me faire mener.
On ne parle pas devant les domestiques.
Elle lui répond, que fait cette femme à notre table?
Cette femme, c'est madame Pipe.
Et alors,
madame Pipe dirige ma maison.
Maintenant, vous êtes marié et c'est moi qui dois le faire.
Non, car du temps de ma mère,
votre mère est morte depuis longtemps. Et puis je refuse de recevoir des ordres de cette femme qui veut me faire vivre comme une recluse.
Vous ne recevez pas des ordres de madame Pipe, mais de moi. Tout ce qu'elle dit, c'est comme si je le disais.
Eh bien, je refuse de vivre comme vous voulez me faire vivre.
Vous vivrez comme je l'entends.
Avant notre mariage, vous m'aviez promis une autre vie.
Laissons ces balivernes. Vous êtes une jeune fille et ce sont des histoires pour fiançailles.
Je vais faire annuler notre mariage.
Pour quel motif?
Je trouverai bien. On lui sert de la soupe. mange que de la soupe ici.
C'est bon pour la santé. Et nous avons un jardin.
Et Soupère lui dit, j'ai pas l'habitude de vivre de cette façon.
Vous faudra l'apprendre.
J'en ai nullement envie. Il se lève de table. Bonsoir, je monte à ma chambre. J'allais dire ma cellule. Et elle sort de la pièce. Une fois dans sa chambre, elle se déshabille et se couche. Au bout d'un moment, elle s'endort. Elle est réveillée par la porte qui vient de s'ouvrir. Qui est-ce? Qui est-ce?
C'est moi.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Notre nuit de noces, ma chérie. Allez vous faire foutre! Vous n'avez pas le droit. C'est un devoir. Si vous me refusez, je vous mènerai au tribunal et demanderai des dommages-intérêts. Madame Pipe est derrière la porte. Elle sera témoin. Elle va rester jusqu'à ce que je lui dise que le mariage est consommé.
Vous voulez qu'une domestique écoute notre intimité?
Oui, ma petite. Allons, au travail.
Il s'approche du lit, soulève la couverture et se couche.
Déshabille-toi.
Non.
Tu dois obéir à ton mari. Madame Pipe peut m'y aider.
Elle quitte sa chemise de nuit. Elle est nue.
Ouh, c'est joli tout ça.
Il s'amuse à la tripoter.
Fais vite, mon vieux cochon, j'ai sommeil.
Il lui palpe, lui caresse ses seins, les embrasse. Elle sent sa salive sur son corps, ça la dégoûte. Puis, il quitte sa chemise de nuit. Se met sur le dos et lui dit
« Suce-le !»«
Ah non alors, ça ne va pas recommencer !»
Elle se dit « Je suis mariée pour sortir des griffes de ce vieux dégoûtant docteur pour tomber sur celui-là. Non, je refuse de faire une chose aussi dégoûtante. »«
Mais il n'est pas dégoûtant, j'ai lavé. »
Non.
Regarde comme elle est belle. Non. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mon devoir d'époux, je ne bande plus. Si tu ne le fais pas, j'appelle Madame Pipe.
Elle soupire. Et se dit que c'est bien la dernière fois. Elle se penche vers lui. Il a un gros sexe blanc, tout mou, avec des poils tout blancs.
Suce !
Elle prend la chose flasque entre ses mains. C'est dégoûtant. Ça lui donne envie de vomir. Quand on a plus envie d'autre vomir, autre chose. Mais que faire? C'est mou. On dirait du gras ou de la gélatine. Comment sucer quelque chose d'aussi mou? Alors, elle fait comme si elle mastiquait. Comme si elle mastiquait. Ça semble faire du bien au vieux. Le sexe se raidit peu. Mais vraiment très peu. Enfin, le vieux semble en transe et fait une goutte. Ça la dégoûte. Le retire de suite et crache sur le parquet. Il lui dit
« C'était très bien. Tu es une sacrée suceuse, toi.
Je recommencerai plus jamais cette chose-là, mon vieux. Tu auras de faire ça ailleurs, où tu voudras. Je me demande quelle est la pauvre fille qui devra te faire ça, à moins que ce soit la Pipe.
Arrête de dire des bêtises. Nous sommes mariés maintenant. Et pourquoi irais-je chercher ailleurs? Bon, On a fait la première partie. Maintenant, pour que le mariage soit consommé, il faut t'enlever ta virginité. Madame Pipe,
la tient fermement. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire?
Rien de grave. Avec un tuyau de caoutchouc, nous allons t'enlever ta virginité. Madame Pipe!
Madame Pipe est entrée dans la pièce. Elle tient entre ses deux mains cérémonieusement un petit plateau en argent avec dessus un tuyau de caoutchouc.
Donnez le tuyau.
Et elle pose le plateau sur la table de nuit. Apolline est effrayée.
Elle se démêle.
Au secours !
Tu peux toujours crier. Les gens savent ce que c'est et que c'est ton dépucelage. Ils rient sous cape. Madame Pipe, tenez-la fortement. Je vais lui introduire la chose. Apolline se défend. Bouge, crie, donne des coups. Mais ils sont deux.
Madame Pipe lui tient le haut et le marquis de Saint-Véran le bas. Il lui écarte les jambes et lui enfile le tuyau. Apolline lui crie « Salaud, fumier !» Le marquis, surpris, dit
« Ça rentre comme dans du beurre, Madame Pipe !»
Elle lui répond
« Cette garce, elle n'est pas vierge. Je m'en doutais. Vous avez épousé une traînée. Que faire, Madame Pipe ?
Nous allons nous en occuper, monsieur le marquis.
Je m'en vais tout de même lui donner un peu de plaisir. »
Il le fait avec le tuyau. Apolline ne peut s'empêcher de gémir, car ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ce qu'elle appelait avant la chose. Une fois qu'elle a joui, le vieux sort le tuyau et le jette à terre.
Pour ta nuit de noces, tu as vraiment bien joui.
Apolline est en sueur, épuisée, salaud. Le marquis de Saint-Véran se lève et dit
« Je suis épuisé. Allons-nous coucher, Madame Pipe. »
Elle lâche Apolline et se lève. Et ils sortent de la pièce. Apolline pleure de rage, puis éclaire la bougie de sa table de nuit pour se nettoyer. La pièce est gelée. L'eau aussi. Elle n'a qu'un vulgaire bout de savon dur comme un caillou. Une fois lavée, comme elle a pu, elle retourne se coucher et se jure de partir dès le lendemain. Elle retournera chez ses parents et leur dira tout. Lorsque c'est le plein jour, elle se souvient de tout. Sa fureur revient. Et elle se lève d'un bond.
S'habille. Court à la porte. Elle est fermée à clé. Elle tape. Elle est bien fermée à clé. Elle court à la fenêtre. L'ouvre.
C'est très haut, mais il y a des corniches. Et puis de toute façon, elle n'a plus rien à craindre. Elle n'a plus rien à perdre. Elle tente le coup, se déchausse, jette dans le parc et monte sur le rebord de la fenêtre. Là, elle n'ose pas regarder. Elle tend la main pour prendre une moulure en forme de rond qui va jusqu'en bas. Elle se met les deux mains sur la moulure et se laisse glisser jusqu'à la fenêtre suivante, et ceci jusqu'au rez-de-chaussée. Elle tremble, elle a peur, elle est en sueur. Enfin, ses pieds touchent terre. Elle lâche la main
Malheureusement, des chiens accourent vers elle. Elle panique, se met à courir autour de la maison. Des chiens lui courent après. Tout à coup, elle court. En courant, elle tombe en plein devant Madame Pipe. Elle est prise entre les chiens Madame Pipe. Elle se serre dans les bras de Madame Pipe. Couchez les chiens! Couchez! Couchez! Madame, vous allez retourner à votre chambre. Elle prend fermement Pauline par le bras et la mène dans le manoir. Dans le couloir, elle rencontre le marquis. Madame Pipe lui dit, elle a tenté de s'évader, sortie par la fenêtre de sa chambre. Il faut le faire. Je vous avais dit, monsieur le marquis, que c'était une sacrée garce. Ah, nous n'avons pas fini avec elle. Elle emmène à sa chambre Pauline, apeurée, tremblante.
Ouvre la porte, la pousse dans sa chambre, ferme la porte. Dans la porte à clé, Pauline effondrée couche sur son lit.
Tout à coup, une image lui vient, un visage, celui de Sylvain. Elle se maudit d'avoir refusé ses avances. Lui au moins, il est jeune, beau, gentil, et il m'aime. Pauvre Sylvain. Et moi, pour être riche, je l'ai refusé. Nous aurions vécu à Lyon. J'aurais eu ma famille près de moi, mes frères. Maintenant, je suis prisonnière d'un vieux fou à milieu de chez moi. Le mariage d'Apolline a beaucoup attristé Sylvain. Jules va souvent le voir. Il le retrouve dans sa chambre, qu'il ne quitte plus. La domestique amène Jules jusqu'à la chambre.
Entrez. Elle fait entrer Jules, ferme la porte. Sylvain est allongé, ne quitte plus son lit. Jules s'approche de lui.
Il voit qu'il a encore les yeux fiévreux. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Toujours la même chose. Il lui caresse le front. Il aime ce front lisse et doux. Puis, va s'asseoir sur une chaise
près du lit.
Et lui dit, écoute Sylvain, je ne supporte pas que tu sois malade. Tu sais, ma sœur n'en vaut pas du tout la peine. Elle n'est pas si bien que ça. C'est une calculatrice qui sait ce qu'elle veut. Si elle s'est mariée, c'est pour avoir l'argent du marquis et se libérer de la famille. Pendant que tu es là à pleurer, elle est dans un grand château entouré de domestiques qui la parent comme une reine et un vieux marquis qui est fou d'amour pour elle. C'est ton temple de la regarder comme une œuvre d'art. Elle le tient par le bout du nez, son marquis. Elle voulait un homme à ses pieds, elle l'a eu. Tu m'écoutes, Sylvain ? Sylvain lui dit, qu'est-ce que tu en sais ? Tout ce que tu dis, c'est pour m'aider à guérir. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Si, je t'assure, parce qu'elle me l'a dit, moi aussi j'aurais préféré qu'elle te choisisse. Je lui ai dit, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait. Sylvain lui demande, pourquoi a-t-elle tant besoin de luxe alors que chez vous, elle vivait assez modestement ? Je lui réponds, c'est pas de luxe dont elle a besoin, mais d'argent. Apolline aime l'opium. Sylvain ne dit rien. Jules lui prend la main et les lui caresse doucement, tout doucement, tendrement. D'un geste brusque, Sylvain la retire. J'aime pas quand tu me touches, ça me fait horreur. Jules est mort de honte de savoir que Sylvain connaît ses désirs. Sylvain continue. Tu ferais mieux de t'en aller. J'ai pas envie de te voir. Jules se lève, penaud, triste. Au revoir. Sylvain ne répond pas. Jules quitte la pièce. À sortie de l'immeuble, il est triste, accablé, triste. Il décide de rentrer chez ses parents. J'ai trop parlé. C'est de ma faute. J'aurais dû ne rien dire. Il ne se serait pas énervé. Avant de lui parler, il a accepté que je lui caresse le front. C'est après que ça l'a énervé, que je dise du mal de ma sœur. J'aurais pas dû. Mon Dieu, que faire ? Et dire que c'est la faute de cette garce. Cette garce. Arrivé chez ses parents, il va directement à sa chambre, son refuge pour les malheurs, sa façon à lui de quitter le monde. Une fois dans sa chambre, il va s'allonger sur son lit. Et s'il ne veut plus me revoir, mon Dieu, ce serait terrible. Que vais-je devenir s'il ne veut plus ? J'ai pas de chance. Si Sylvain me quitte, je connaîtrai jamais ce qu'est l'amour. J'ai besoin de tenir dans mes bras un être aimé, de sentir. Oh Sylvain, ce que j'ai connu avec ma sœur, c'était pas la même chose. C'était plutôt de la douceur qu'on se faisait en commun, l'amusement de connaître l'autre sexe. Même à cette époque, je croyais avoir un profond sentiment pour elle. D'ailleurs, avant elle, j'aimais des garçons. Oh Sylvain, ne me laisse pas tomber. Sans toi, il n'y a plus de joie. Ne nous affolons pas. Demain, j'irai le voir. Sa colère doit être passagère. Il n'y pensera plus. Oui, demain. Pour arriver plus vite à demain, ferme les yeux, fatigué. La peine, au bout de quelques minutes, l'endort.
et le lendemain, par un temps qui est devenu tout d'un coup froid, avec un vent glacé, Jules va sonner chez Sylvain. La domestique lui a ouvert. J'aimerais parler à M. Sylvain Lupin.
Monsieur, Monsieur Sylvain, me dites-vous dire qu'il ne voulait pas vous recevoir.
Je suis navré, monsieur.
Merci. Et il s'éloigne. Derrière lui, il a entendu la porte qui s'est refermée. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 32e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.